Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King & Nudie, votre rendez-vous hebdomadaire avec Monsieur Fernand Lopez. Bonjour Fernand, comment ça va ?
Je vais bien, toi-même.
Bah ça va très bien et je vais directement entrer en vif du sujet, te poser une question que les journalistes ont posée en conférence de presse. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes tes pépites chez les Welterweight à Ares Fighting Championship ? Parce que là, t'as eu un petit peu le temps de réflexion, c'était vendredi, on est mardi désormais, alors Jordan Zebo, qu'est-ce qui se passe pour lui pour la suite? Parce que très très bonne performance face à Michael Marisardi, ponctué d'un superbe KO par head kick.
Je ne sais toujours pas. Je ne veux toujours pas le dire, pas pour le monde.
Voilà.
Je ne peux pas.
Carla Moussou, non?
Je ne peux pas. Ah bon?
Non, je sais.
Le combat encore?
Ok. Non, mais je pensais qu'il est plus sous contrat du coup avec Ares.
Si.
D'accord.
Mais je sais pas. Je sais pas. J'ai pas les nouvelles.
Ok.
Donc, mais alors, mais je te disais que les 67 kilos. Les 67 kilos, il y a qui ? Il y a Ibrahim Mané qui s'en veut de n'avoir pas fini le combat pour être tout à fait honnête. Je suis très content pour lui qu'il ait gagné le combat, mais moi aussi, je lui en veux de ne pas rester debout et chercher à finaliser le combat. Ça aurait pu être une bonne chose. Mais on est d'accord que Ibrahim Mané reste un athlète d'élite et qu'il est dans le dernier carré et les personnes les plus proches du titre. Il est très très proche du titre parce qu'il avait une très bonne expérience au Brave et dans plein d'autres organisations et qu'il se retrouve très proche du titre avec ce qui aujourd'hui il est sur 4 victoires sur Ares et tout, c'est quelque chose de très bien. C'est quelqu'un qui avait une carrière en baisse en Berne et qui revient de loin et donc je suis content pour lui et peut-être qu'il va faire quelque chose maintenant. On va voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a l'Allemand qui n'est pas mal.
Monsieur donc, Klinghammer.
Voilà, Félix Klinghammer, on l'observe un peu. Et c'est quelqu'un qui a... Je n'ai d'ailleurs pas la version finale du fait qu'il n'est pas combattu au Contender Series. Je vais lui poser la question. Je n'y ai pas pensé. Mais ce jeune homme-là a été au Contender Series. Enfin, il avait été appelé. Finalement, le combat ne s'est pas fait. C'est dire combien de fois le monde du MMA, le regard sur l'UFC, en tout cas, l'a choisi pour pouvoir faire partie de ceux qui passaient par le Contender Series. Et aujourd'hui, il est sur Ares. Il a une victoire, encore un finish. Il y a ces noms-là qui me titillent. Il y a Baisenko qui aussi a un niveau de folie. Et ce serait intéressant de le voir. De le voir aller titiller, mais j'ai besoin il y a quelques éléments qui me manquent.
Il y a quelques éléments. Comme quoi, par exemple?
Pour tout à fait honnête, j'ai besoin de savoir ce que vont faire les deux tenants des ceintures. La ceinture officielle des 77 kilos reste tenue par Abdullah Abdulagimov et la ceinture intérimaire tenu par Pépi. Aussitôt que j'ai les décisions de ces deux personnes et la direction que ces personnes vont prendre, je vais pouvoir voir avec mon équipe de matchmaking pour finaliser les combats des autres welterweight.
Et dans l'éventualité où ces deux portants de ceinture quitteraient l'organisation, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'autre truc aussi où moi de loin, tu vois, quand je vois ça, c'est j'ai l'impression qu'Ibrahim Mané, il est aujourd'hui dans une situation où, comme tu l'as dit, il revient de loin et il est peut-être moins vocal que le sont Jordan Zebo et Baïsangour, où ils affichent clairement leurs ambitions et peut-être qu'aujourd'hui ils ont des ambitions qui dépassent, je vais pas dire la raison, mais tu vois, peut-être qu'ils veulent déjà, tu vois, manger un gâteau peut-être trop gros par rapport à ce qu'ils peuvent manger aujourd'hui. Comment tu gères ces deux cas-là? Parce que, enfin, ces deux cas-là, dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es obligé de leur dire. Enfin, on a vu Jordan Zebo juste après son head kick, quand il a demandé le bonus, ça venait vraiment des tripes. Ou comme Baïsangour, il dit bon, bah là, maintenant, je veux la ceinture ou même l'UFC. On sent qu'ils sont jeunes, mais ils veulent vraiment. Alors qu'Ibrahim Mané, on est quand même sur. Enfin, c'est raisonnable ce qu'il demande.
Non, c'est pas. Non, vous trompez sur Ibrahim Mané. Il ne le fait pas sur les médias. Mais Ibrahim, c'est une machine de guerre, c'est un rouleau compresseur. Il n'y a personne qui m'appelle autant. Ibrahim, il est méticuleux. Et c'est que là, déjà, entre la fin du combat aujourd'hui, Ibrahim et moi, on a fait 3 réunions au téléphone. Il veut absolument la ceinture. En tout cas, il veut progresser. Il veut aller fort, il veut aller vite. Toutes ces personnes ont un seul objectif dans leur tête, passer. Next step, passer à la ceinture, passer à l'UFC, passer. Mais effectivement, en fonction de leur tempérament, ils vont soit être vocaux, soit timides, soit parler en privé. Ibrahim, lui, il choisit la voie de parler directement avec le matchmaking et dire, bon, est-ce que mon combat vous a satisfait? OK. Quelle est la suite? Vous prévoyez quoi sur moi? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a les jeunes qui vont communiquer et ça fait du bien. Moi, ça ne me gêne pas qu'ils parlent en réalité. Par exemple, j'ai reposté une interview de Jordan sur mon Twitter qui a fait beaucoup de débats où les gars étaient en train de dire, bon, il s'agit d'être raisonnable, tu parles que tu vaux le top 5 de l'UFC. Alors que ce n'est pas ce qu'il disait, Jordan. Jordan, selon ce que j'ai compris, c'était de dire que moi, je crois toujours. Je crois que je peux fighter. Je crois que je peux aller combattre au haut niveau. J'ai envie d'aller combattre au haut niveau. J'ai envie d'aller, j'ai envie d'aller affronter les mecs du haut niveau. Même si on me donne 1 million pour aller au PFL, je ne veux pas aller au PFL. Je veux aller à l'UFC. Et ce qu'il dit, je l'ai déjà testé. Le PFL l'a demandé. Et bien entendu, c'était très loin du million. Mais je vous dis qu'il n'a même pas ça en tête. Et ces personnes, tu ne découvres leur rêve qu'au moment où tu te confrontes à ça. Parce que tu te dis, bon, je pense qu'il va vouloir y aller parce que c'est une bonne opportunité, machin. Et tu découvres qu'il est très sûr de lui. Et ce qu'il dit simplement, c'est peut-être que si je vais au PFL, peut-être que celui qui va au PFL n'est pas sûr de lui. Moi, je ne suis pas sûr de moi actuellement pour être dans le top 5, mais j'y crois que je peux y arriver un jour. Et si c'est pour l'argent que je vais aller au PFL, alors je crois en moi, j'investis sur moi, je vais travailler et un jour, je serai dans le top 5. Moi, je préfère ça, je respecte ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça, que ce soit de la part d'Ibrahim, que ce soit de la part de... Non, que ce soit de la part de Baki, que ce soit de la part de Jordan. Maintenant, j'ai un principe, c'est de dire, les gars, si vous voulez vous affronter, que ça ne vous pose pas de problème, allons-y.
Et
je ne vais pas donner des noms parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation, mais j'ai déjà présenté dans les 77 kilos 2 personnes du MMA Factory qui ont dit non, à ce jour, on est comme des frères. Non. On laisse passer. On a d'autres personnes à affronter. Après, on aura un regard difficile dans la salle. On préfère éviter, même quelqu'un d'autre. Ça ne s'est pas fait. Du coup, on a laissé tomber le projet. On l'a laissé tomber. Mais ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, s'il y a la confirmation des 2 tenants des ceintures qui bougent ou qui ne combattent pas sur le mois de... ou en tout cas qui ne peuvent plus, qui vont libérer la ceinture, à partir de ce moment-là, ça va être très facile. Ça va être facile d'avancer. Que ce soit du côté de Baki, que ce soit du côté de Jordan, mais on sera à maximum 2 combats de la ceinture.
Ok, bon, on n'aura pas de réponse pour aujourd'hui, mais néanmoins, aujourd'hui, instant T, on est le mardi 16 mai 2023. T'as dit que oui, Jordan, aujourd'hui, il estimait avoir le... Enfin, il voulait aller jusqu'au... Enfin, il visait top 5 UFC, rivaliser avec ces gars-là aujourd'hui. Entre les trois, Baki,
Oh,
Jordan
Dieu.
et Monsieur Bonnet, lequel pour toi aujourd'hui a le plus de potentiel? Oh! Sachant au mardi 16 mai, au mardi 16 mai 2023, tout peut évoluer.
Je te promets, je ne sais pas. Mais pas, mais parce que je
Regardez-le
t'explique.
devant la France, il
Mais
n'ose
non,
pas
mais non, mais
répondre.
non. Parce que
Vas-y.
ceux qui connaissent Jordan Zebo ne peuvent pas croire que c'est Jordan Zebo qu'on a vu dans la cage de Arès il y a 4 jours. Jordan Zebo à la salle, c'est même pas possible. Écoute, Jordan à la salle, ce n'est pas normal. Je peux même pas dire ce que j'ai envie de dire. C'est qu'à la salle, il est inexistant. Il se fait marcher dessus. Et puis, il n'arrête pas de le dire. Quand je lui fais des reproches, Jordan, tu ne peux pas faire ça. Tu es venu, tu arrêtes, tu as cassé la cage, on t'attend, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser ça passer, tu ne peux pas faire telle erreur. Je suis tout le temps sur ses côtes en train de lui faire des reproches, en train de le pousser. À chaque fois, il me dit, coach, moi, à la salle, mais ne t'inquiète pas. J'ai juste envie de combattre, même moi n'importe qui. Même moi qui tu veux, je vais gagner. C'est sûr, je suis sûr de moi, je vais gagner. Et sincèrement, on était assis, Cyril, Benjamin et moi, et on se regardait en me disant, qui c'est, qui est ce mec? Qui est ce mec? Son fight IQ frôle le zéro à la salle. Son fight IQ lors du combat. Je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas comment il se transforme. Du coup, ce que je veux dire, c'est que, en les regardant à la salle, je ne peux même pas évaluer. Parce qu'effectivement, des trois que tu viens de me citer, le dernier qui va émerger de ma tête quand je les vois à la salle, bien entendu, c'est Jordan. Mais va voir la performance qu'il a fait. C'est que, Marie Saadi, c'est pas n'importe qui. Marie Saadi, on a vu ce qu'il a fait, le combat qu'il a fait avec, il est allé à la décision avec Baki. Et Baki à la salle, il va marcher sur Jordan. Et Jordan, il va arriver à la compétition, il va marcher sur Marie Saadi. Donc, quand je t'ai dit que je ne sais pas, sérieusement, je fais pas semblant. Je ne peux pas te dire qui je vois, qui sort du lot de manière, comment dire, de manière très claire.
Et pour le coup, Jordan Zemmour, moi j'avais découvert lors des mondiaux de MMA amateur en 2019 où il avait fini troisième. Est-ce que là aujourd'hui, je crois que c'était au dernier Arès où tu avais reçu un trophée parce que vous avez des bons résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, là, comment, le circuit amateur, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, toi?
Oui. Aujourd'hui, il y a un classement on est sur le top 5 des meilleurs clubs en France en amateur. On est, si vous allez sur le site de la FMMAF, vous avez le classement des clubs par club sur les compétitions amateurs.
Mais c'est ce que tu
On
veux
en fait.
pousser toi aussi? Enfin,
On
tu
en fait.
pousses tes gars à en faire
Ah,
des
je
compètes?
l'ai toujours fait, j'ai
Ok.
toujours fait ça. Un mec comme Kenzo que vous voyez sur, il ne sort pas de nulle part. C'est un jeune qui est arrivé à la salle en préado, quoi. C'était un gamin, Kenzo. Et puis aujourd'hui, on le voit sur Arès en train de faire des coups de coude retournés et avancer sur, enfin, faire des gros dégâts et envoyer des gars à l'hosto. Attention, Kenzo, c'est un gamin qui. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de faire progresser les jeunes. On a un vrai gros circuit amateur. Il y a très peu de clubs qui ont le volume de personnes qu'on a chez les amateurs. C'est énorme. Le tapis des pros aujourd'hui, quand on fait un cours par catégorie, moins de 77 kilos, par exemple, les moins de 77 kilos à la salle, quasiment la moitié des mecs du coup pro des moins de 77 sont des gars qui étaient des ados ou qui sont à peine passés mineurs et qui sont nés sportivement parlant, martialement parlant au MMA Factory, qui ont connu leur premier sport au MMA. C'est vraiment ce qu'on appelle la génération spontanée, quoi, ceux qui sont vraiment nés dedans. Et non, c'est très important pour nous, c'est la base de tout, c'est même c'est le futur. C'est vraiment le futur. En gros, on a des recrues, des nouvelles recrues qui viennent de l'extérieur, qui avaient déjà un autre bagage, qui arrivent avec 2-0, 3-0, qui sont très bons, qui sont le futur. Mais on a un futur qui a été fabriqué là, qui est né là et qui observe des gars qui étaient des ados qui ont vu Cyril Gane arriver à la salle, qui ont vu Nassourdine arriver à la salle, qui les ont vus grandir et qui les admirent et qui disent, moi, j'ai envie d'arriver là, quoi. Je veux arriver là. Ouais.
Ok, parce que moi j'avais toujours ce positionnement avec le MMA amateur, un peu comme en boxe aussi, où on sait qu'on ne peut pas combattre éternellement et donc on prend des dégâts, enfin c'est quand même des... Enfin, et donc entreprendre les dégâts au niveau amateur ou les prendre au niveau pro, il y a aussi une question à faire. Toi, c'est quoi? C'est en fonction de l'expérience du gars, de l'âge du gars que tu vas prendre telle ou telle décision?
C'est vraiment ouais, c'est vraiment cas par cas. Il y a des jeunes à la salle, il y a un jeune qui a Falou. Palou, c'est un gars qui est un amateur chez nous, qui a fait une compétition amateur. Il n'a jamais fait de combat de sa vie. C'était vraiment son premier combat. Et je l'ai dissuadé d'aller faire la compétition amateur. Je voulais qu'il passe tout de suite en pro. Bah, j'ai eu raison parce il est dangereux pour les amateurs. Il est amateur, il n'a jamais fait de combat amateur, mais il est extrêmement dangereux, Falou. Je le mets en sparring contre des grands noms de la salle, quoi. Quand j'ai besoin des fins, c'est un mec, il a une lutte de manière naturelle. Il a cette lutte sénégalaise et tout. Il est très solide, mais il a une très belle boxe. Il se déplace bien. Il est intelligent, il est super jeune. C'est un problème, tu vois. Et donc, je souhaite vraiment, lui, il n'a qu'un seul combat en amateur, mais je lui dis, fais plus d'amateur, tu vas blesser les gars pour rien, et surtout, tu perds ton temps, tu perds littéralement ton temps, tu vois. Là, il y a deux jeunes qui ont fait le CQ amateur et qui ont été, notamment Ryan, qui a été vice-champion du monde amateur, mais je pense que tu étais au Bahreïn quand il a
Ouais,
combattu.
en 2019, j'y étais aussi. Oui, il avait
Ben
fait finir
voilà,
troisième, ouais.
il y a Taha Djerbi aussi qui va combattre le mois prochain, qui était un amateur qui a été champion du monde de sambo. Oh non, il était sur les championnats du monde de sambo. Je ne sais plus son rang, ce qu'il a fait. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, il a été plusieurs fois champion de France de sambo. Ce jeune-là, par exemple, il est deux là, son pote. Il ne se lâche pas, ils s'entraînent tout le temps ensemble. Mais il faut les voir quand ils font du sparring avec Sami Fedin. Il faut les voir quand ils font du sparring avec Taylor. Ce sont des terreurs. Et je leur demande, pourquoi vous allez encore sur le circuit amateur? C'est pas juste, c'est pas correct. Oui, vous allez prendre des médailles d'or, mais c'est pas correct, vous êtes trop fort. Donc, effectivement, cela, je les encourage à passer sur Arès et à faire autre chose. Et puis, il y a des jeunes qui arrivent et qui veulent tout de suite faire le circuit pro. Et je leur dis, non, vous n'avez pas encore le niveau. Le rôle aussi de ce qu'on fait chez nous, c'est ça, c'est que, bon, le temps passe. On me voit plus à Vegas ou Benjamin, on nous voit plus en costume à Arès. On oublie qu'à la base, nous sommes des formateurs de base. Hein, une salle de sport, si tu as déjà tenu une salle de sport un jour dans ta vie, tu sais que ce qui tient la salle de sport, ce sont les amateurs qui paient leurs cotisations. Ce sont ces personnes-là, c'est la base. La pyramide, elle monte et au bout de la pyramide, il y a des Cyril Gane, des Nassourdine Imavov, des Taylor Lapillus, des William Gomis qui arrivent au bout, des Aliou Niaé, des Dagi Imavov qui arrivent au bout de la pyramide, qui sont des grands noms, qui sont ceux qui vont loin. Et puis à la base, il y a une grande base où il y a tous ces amateurs-là qui font déjà un premier tri. Et ça, c'est le cœur de notre métier en réalité. C'est que vraiment ce qu'on fait, vraiment de bien, c'est de donner une vocation à ces jeunes-là. Et donc, on les forme à la base, on leur apporte les fondamentaux. Et puis, il y a quelques-uns qui vont rester. Il y a la plupart qui ont changé de sport, changé de métier, faire autre chose dans leur vie. Mais non, on fait vraiment ce qu'on appelle, voilà, pour faire simple, pour vulgariser, on fait de l'orientation scolaire. En fonction du niveau, on va orienter les gens. En disant, bon, toi, t'es fait pour ça, toi, t'es pas fait pour ça. Toi, si tu arrêtes le MMA ou si tu le fais à un niveau amateur, c'est un gâchis parce que t'es très, très bon et tu peux devenir champion. Mais toi, arrête de rêver que tu vas être champion de l'UFC, c'est compliqué. Tu as un retard sur telle, telle chose, vaut mieux que tu le fasses en amateur, ça va être mieux pour toi. En fait, l'orientation scolaire.
Got it, got it. Bien, on avance maintenant, Fernand, au main event d'Ares Fighting Championship. Donc, Demarte Peña s'est imposé maîtrise face à Mehdi Saadi. Voilà, il a gâché la fête pour les fans français. What's next pour lui? Parce que là, il veut la revanche contre Taylor Lapillus à l'UFC. Est-ce que t'en parlais? Tu disais que pour les deux, effectivement, en cas de victoire, ça allait peut-être être compliqué de les conserver. Est-ce que ça a avancé de ce côté-là? Est-ce que toi, là, t'as été aussi, je sais pas, peut-être impressionné par la performance?
Je suis pas le manager de Demarte Peña. Du coup, je ne sais pas où ils en sont avec les démarches avec l'UFC. Mais en tout cas, comme on le sait, si jamais l'UFC s'approchait de son management et qu'on le libérait, il serait libre d'aller à l'UFC, il n'y a pas de souci. Mehdi Saadi, on est d'accord que il a commencé bien son combat. C'est ce qu'on a envie de voir, c'est ces jeunes-là qui apprennent. Il n'y a pas un meilleur apprentissage que quand tu arrives à ça. Il y a beaucoup de gens qui voient une défaite comme étant un échec. Les sportifs, on voit une défaite comme étant un pas vers la victoire, un enseignement, une manière d'apprendre encore. Et il a appris à la dure avec un Peña qui était très dur, très expérimenté, très malin, qui a laissé passer l'orage, qui était très patient. Et donc, je n'ai aucun doute que Mehdi va revenir beaucoup plus grandi, avec beaucoup plus d'expérience. Et Peña de son côté, en fonction de ce que la temporalité va nous donner, on va faire les choix, mais tout dépendra de lui. Nous, on a les combats tous les mois, on propose des combats, et si Peña veut combattre, il combattra. S'il ne veut plus combattre parce qu'il voit, il veut autre chose, il ne combattra pas et on mettra quelqu'un d'autre. Mais tous les mois, nous on sera là pour offrir des combats en direct sur Canal Plus ou sur UFC Fight Pass, quoi.
Alright, sir. Bien, on va avancer avec ce qui se passait. Là, on va aller par ordre chronologique. Le jeudi, il y avait Ares. Le vendredi, il y avait le Bellator. Et Mansour Barnaoui disputait le premier tour du tournoi lightweight du Bellator face à Bren Primus, donc que les gens connaissent bien s'ils suivent l'organisation, parce qu'il s'était déjà imposé face à Michael Chandler, notamment ancien champion de l'organisation, qui est arrivé en remplacement de l'adversaire originel pour Mansour Barnaoui. Malheureusement, Mansour s'est incliné par décision. Toi, qu'as-tu pensé de la performance au global? Donc c'est vrai, on loue le courage, entre guillemets, même si j'aime pas du tout cette expression pour parler des combattants, mais vraiment vraie déception, parce que bon, c'est ce que j'ai dit dans le podcast, j'ai l'impression qu'il y a une vraie malédiction Bellator français quand ils sont à Paris, parce que ça fait 3 années qu'ils viennent, 3 années que la star française perd.
Ça existe, la défaite, les gars. C'est la première des choses. Il faut qu'on apprenne ça. Enfin, tu peux aimer les gars comme tu veux, mais ça existe, la défaite. Il y a plus fort des fois au monde. Mansour n'a pas démérité. Il a fait une guerre de malade. Les 3 premières rounds, ça donnait des frissons. Moi, j'ai regardé le combat en direct. C'était foudroyant. Le 3e round, quand Primus s'assoit, je me dis, c'est fini. Il n'y a aucune chance qu'il revienne. C'est impossible qu'il revienne. Il y avait des trous, ça et là, dans la boxe de Mansour. Mais on se disait, il n'est pas très précis, Primus, pour lui faire, pour le descendre. Même s'il est lourd, même s'il a des frappes lourdes, on a vu à un moment donné Mansour chanceler. Mais on sait que dans cette échange et tout, ce style de combat de Mansour, il n'a pas changé. C'est exactement le même Mansour qu'on connaît, c'est le même Mansour qui s'est présenté. Et donc, du coup, on sait que c'est un mec qui est capable d'aller à la guerre, de rester debout. Et si vous échangez, tu seras le premier, enfin, il sera le dernier debout, en tout cas. Et là, pour le coup... Le sol de Primus a pris le dessus. Il a un très gros sol. J'espère que Mansour n'aura pas à changer de camp d'entraînement. Il n'a pas besoin de bouger. Je pense qu'il a un bon camp d'entraînement. Ça se passe bien. Mais voilà, il faut juste accepter qu'il est plus fort que soi. C'est tout. Il faut qu'on commence à comprendre que. Il faut vraiment qu'on éduque les gars et qu'on comprenne que. Au bout d'un moment, tu prends 2 gars qui sont très, très bons au sol, tu les mets aux Jeux Olympiques, il y a un qui va perdre le match. Tout le monde ne peut pas gagner. Il y a toujours quelqu'un qui va perdre à un moment donné. Et il faut pas faut vraiment qu'on pète cette attitude-là de, c'est fou les titres des podcasts. pourquoi Mansour a perdu. Ça me déborde. Pourquoi vous voulez savoir pourquoi il a perdu? Pourquoi chercher la faute à quoi il a perdu? Pourquoi ne juste pas se dire comment Primus a gagné? Non mais, est-ce que dans la vie on ne voit pas? Est-ce que moi quand je vois ce match, j'observe les deux, j'admire les deux et je me dis dans ma tête, c'est fou ce que Primus est en train de faire. Il était en retard, c'était chaud sur lui. Il s'est rendu compte que Mansour a un très bon sol, mais sur la défense de lutte, il y a moyen qu'il refasse ce décalage avec un barrage et tout qu'il faisait et le ramener sur le dos. Et ben ça marche. Il s'est dit, je le fais deux fois, je reste sur lui, je dors, je fais un peu du ground and pound, j'arrive, j'ai sécurisé ma victoire. C'est ce qu'il faut regarder. Pourquoi chercher toujours les causes de la défaite de quelqu'un? Pourquoi c'est un truc qui est dans le sport. C'est fou, en fait. Il y a un match de football, l'équipe est brillée, tout ça se passe bien, l'équipe, il y a un problème, il y a un but qui est raté, il y a un truc, Neymar, vas-y, dégage, range-toi. C'est tout de suite, le coach et tout, le sélectionneur, il faut le dégager. Mais pourquoi? Donc, moi, voilà, en tout cas, j'ai apprécié le combat. Très beau spectacle.
Oui, puis serré, puisqu'il perd 3 rounds à 2.
Voilà, c'est à la fin, la fête est gâchée parce qu'il y a finalement l'autre qui gagne. Mais aujourd'hui, on sait que très peu d'hommes sur la planète peuvent faire un retour après 3 années, faire la performance qu'il a fait récemment, ajouter cette performance. Et surtout, on se rappelle de qui est Mansour. On sait les guerres qu'il a fait. On sait ce qu'il a fait pour la France. On sait comment il a monté les drapeaux français. On sait que c'est grâce à lui qu'on avait 10 000 spectateurs à Bercy l'autre jour. Et du coup, on doit se souvenir de ça et se dire, OK, on est déçu de la défaite, mais ce mec, on ne peut pas résumer sa carrière à un quatrième et un cinquième round. Et c'est une surprise parce que d'habitude, on dit, si on a un combat à 5 rounds, c'est Mansour qui est avantagé parce qu'il a un cardio quasiment illimité. Et cette fois-ci, ça s'est retourné contre nous. On ne sait pas comment on verra bien. Mais en tout cas, souvenons-nous qu'on ne peut pas cristalliser la carrière d'un être humain à un combat.
Très bien, monsieur. Bien. On va parler désormais de l'Ultimate Fighting Championship avec... Lui, on l'annonçait, tu l'annonçais comme un problème. Il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Il a fallu 4 minutes 30 à peine. Jailton Almeida s'est imposé par soumission. Premier round contre Jairzinho Rozenstruik. Pas vraiment une surprise. Mais est-ce que ton téléphone a sonné depuis cette victoire?
Pas encore.
D'accord. Et est-ce que t'attends ça en mode... Oh là là, je vais pas non, répondre.
Je ne veux pas qu'il sonne mon téléphone pour ça. J'espère qu'il va sonner pour autre chose. Non, mais c'est un problème.
Penses vraiment? Ouais.
C'est un problème pour, de manière générale. C'est un gros problème, mais je ne pense pas que c'est un problème insolvable pour Cyril. Si c'est à ça que tu fais allusion, je pense que c'est un dangereux adversaire, vraiment dangereux. C'est que si le Cyril qui est apparu face à John Jones, apparaît dans la cage, dans les conditions où on est apparu dans la cage, là, effectivement, ça ne va pas durer. Almeida va... Voilà. Mais on sait que on ne peut pas réduire Cyril à un combat. On a vu ce qu'il est capable de faire. On a déjà vu Cyril... résister à pas mal de choses. On l'a déjà vu se relever. La carrière d'un athlète ne se résume pas au fait qu'il ait perdu contre John Jones et contre Francis Ngannou. Avant ça, il y a eu pas mal de personnes et des personnes des pays où on fait du MMA depuis très longtemps. Il a battu pas mal d'Américains, pas mal de Brésiliens. C'est pas un hasard. Ça dit qu'il y a quelque chose quand même. Et donc, je pense qu'il extrêmement efficace, Gelton, Almeida. Mais on est d'accord qu'il y a des petites ouvertures, il y a encore, enfin, s'il monte tranquillement, à maturité, il peut devenir imbattable. Mais si actuellement, on le brûle et on le monte dans le top 5, il aura des problèmes. S'il arrive où les gens frappent sérieusement et qu'il n'a pas encore fermé ses trous et qu'il shoot encore comme le premier takedown qu'il a fait à Giazino, où Giazino l'a stoppé, et pourtant Giazino avait les deux jambes en ligne, hein, c'est que Giazino le stoppe par la patate, hein, c'est que techniquement parlant, il était mal positionné. S'il arrive à un moment donné sur cette position-là, ça peut se compliquer pour lui s'il fait des shoots comme il a fait là. Même sur son entrée, sa manière d'entrer, on voit qu'il y a de la place. Il y a de la place pour un striker qui est intelligent de placer des choses intéressantes. Il y a de la place.
Et son call-out de Tai Tuivasa, t'en penses quoi?
Très intelligent.
Ah ouais, alors vas-y, dis-moi. Bon, bah parce que pour lui, c'est un combat facile.
Si tu veux, Tai est extrêmement dangereux, mais il est extrêmement dangereux avec les points, uniquement les points. Et que Tai a, même quand il y a un low kick sur le low kick de Tai, Gelton Almeida, il peut se suicider à un moment, je prends le low kick et je passe ma main dessus, je glisse, je tombe avec lui. Et si je me mets sur lui, je vais lui compliquer la vie. Donc, c'est malin de sa part, c'est une progression. Même si je trouve la marche légèrement forte, quand même, légèrement, pas beaucoup, légèrement. Parce que il y a plus moyen avant ça. Je serai à sa place. Moi, je fais un call-out sur Spivak, numéro 7. Il est entré dans le top. Il prend le 7e. Le 7e n'a pas de patate, il n'a pas de puissance. Il n'a pas de déplacement, il a un très bon judo, il a des touts de hanche, il y a des projections de judo. Bon, il va le faire tomber, mais même s'il le fait tomber, Almeida sur le dos, il peut le sweeper, il peut le renverser et finaliser le combat. À force, vu la force qu'il a, il est capable de le finaliser. C'est pour ça que je trouve. Tu vois, ça, il reste quelqu'un qui peut te connecter sur une erreur. Et puis, ça se passe mal. On a vu qu'il ne suffisait pas d'être un bon grappleur. Ou en tout cas, d'être un bon lutteur. C'est que, avec le temps, j'espère vraiment qu'il y a une vague. Il y a une vague de commentaires et un peu d'ignorance des gens qui parlaient juste pour parler parce qu'ils accompagnaient un mouvement de haine qu'il y a. J'espère vraiment que ces gens-là n'étaient pas sérieux et qu'ils le faisaient juste dans l'idée de s'associer à un mouvement de haine et de voilà. Contester la méthode qu'on a est quelque chose de. Peut-être qu'il faut de nouveau, tu viens d'arriver, tu débarques dans le milieu du MMA, tu es un nouveau fan, on te raconte un truc, on te dit, tu sais, t'as vu le combat là et tout, bah, ce coach-là, c'est un coach, il est éclaté parce que tu vois le combat qu'il a fait, c'est lui qui coachait Cyril et puis il s'est mort. Mais il faut que tu vas croire en ça. Mais si tu observes bien ce qui se passe, et je le dis de manière, ce que je vais dire là, ce que je donne là, est vraiment une envie d'aider. Sincèrement et de donner des vrais conseils à ceux qui veulent écouter parce que je reçois beaucoup de messages des gens qui écrivent en disant on commande contre toi, on dit des choses contre toi, ça nous amuse, c'est la mode, mais on sait ce que tu fais et on vient te demander des conseils en privé, on vient te demander, on te pose des trucs et tout, dis-nous qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses, et je le dis, ceux qui veulent aujourd'hui, j'ai décidé de cristalliser tout ce que j'ai comme connaissance et tout ce que j'ai comme autour du MMA et que je peux donner comme conseil sur le lien qui est en bio, sur ma bio, sur mon Instagram. Je fais un peu de pub, mais c'est vraiment pas pour ça. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait sur le King Energy, c'était de la pédagogie. On avait beaucoup de pédagogie, on parlait beaucoup, on donnait des conseils aux gens. Cette pédagogie a été biaisée parce que ce qui se passe, c'est que très rapidement, le casual qui arrive et qui a vu le combat de Cyril, qui a vu nos derniers combats, qui a vu le combat de Nassau, du bon. Ce mec, c'est un mec qui a échec, quoi. Regardez ce qu'il a fait. Il a perdu contre Cyril, il a perdu contre Ganou, il a perdu sur les derniers combats de Nassau. Alors, c'est une fraude, c'est un mauvais. Et c'est une grosse erreur. Pas tant pour moi. Moi, j'ai pas de problème, en fait, à ce que c'est pas, je vous promets, je sais lutter pour que mon ego ne brûle pas de ce côté. Mais c'est tant pour les personnes qui sont là et qui ont de la matière à capter. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que le MMA français souffre d'un truc. De manière naturelle, on est né avec beaucoup de strikers sur notre territoire. Naturellement, on a des grands strikers. Comme naturellement, il y a des bons lutteurs au Daghestan. Bien entendu, il y a des strikers d'élite au Daghestan. Bien entendu, ici en France, il y a des lutteurs d'élite. Mais dans le MMA pur, si on fait du MMA pur, on a très peu de grappleurs comme Abdul Abdouragimov. La plupart des gens qu'on a ici qui sont des combattants d'élite ont été des strikers, des Cheikh Kongo, des Cyril Diabaté, des Jess Liodin, des gars comme même David Baron, bon, c'est mieux, était un bon grappleur mais pas un bon lutteur. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment de l'expertise naturellement sur le striking et donc on se retrouve avec un problème de lutte. Et je le dis encore et je le dis à haute voix, ça va paraître très prétentieux pour ceux qui disent qu'est-ce qu'il raconte? Son athlète a perdu le combat sur la lutte contre John Jones. Mais non, il n'a pas perdu sur la lutte en mode, il était en train de faire un match de lutte, il l'a perdu. On a perdu le combat parce qu'on n'y était pas. On a perdu parce qu'il était plus fort. On peut lutter un siècle, John Jones va être meilleur que nous en lutte. Et tu peux rien faire avec ça. Il y a des mecs, tu prends les strikers qu'on a en France, des strikers d'élite, tu leur fais faire ce que tu veux. Tu prends un mec comme Jimmy Vienneau, tu lui enseignes la lutte autant que tu veux. Tu as intérêt à prendre à Jimmy Vienneau les déplacements pour qu'il puisse toucher sans être touché, pour qu'il aille jusqu'à la ceinture. Si tu essayes de faire le con et que tu essayes d'apprendre à Jimmy Vienneau à lutter pour aller lutter et défendre la lutte, il va finir par perdre. Parce que vous n'allez pas demander à Khabib, vous n'allez pas demander à Conor McGregor d'aller apprendre la lutte pour pouvoir venir défier Khabib. Quel que soit le niveau de lutte qu'il aura apprise, il va perdre s'il s'aventure à la lutte. Ce qu'il lui faut à McGregor, c'est d'apprendre certes la lutte en plan B, mais en plan A, d'éviter d'arriver sur la lutte pour qu'il soit frais pour pouvoir boxer. Cette logique-là que je viens de dire, elle a l'air aussi ridicule. On peut en rire. On peut y mettre des mots du genre squat, du genre oh oui, good job. On peut en rigoler. Mais les gars, je vous dis quelque chose que vous pouvez prendre au sérieux. Je le dis pour les coachs qui sont là, qui suivent. Et vous pouvez aller voir le contenu, les contenus de ce que je dis sur la bio, les liens qui sont en bio de mon Instagram et tout. Il y a des petites choses dessus. Ce n'est pas la connaissance essentielle, ce n'est pas la seule vérité, mais ce sont des vraies pistes. C'est de vous dire que si la lutte suffisait pour arriver à faire la ceinture, regarde, Curtis Blade est pour moi actuellement à l'UFC le meilleur lutteur qu'on ait jamais eu. Il a fait la ceinture combien de fois?
Zéro fois, malheureusement. Mais il est passé à chaque fois à une défaite de...
Je repose la question.
Vas-y, zéro fois, zéro fois.
Je repose la
fois,
question. Curtis Blade, meilleur lutteur à l'UFC, a fait la ceinture combien de fois? Le gars, il est américain. Il lutte dans un club américain. Et il a fait la ceinture combien de fois?
Zéro fois. C'est pas le plus bon qu'il mais zéro, oui.
Ok. Cyril Gane n'est pas un lutteur.
Non.
Vit en France, a fait la ceinture. Léon Cédouard vit en Europe, ne vit pas aux États-Unis, a fait. Parce qu'il y a d'abord la notion de déplacement. Bien évidemment, il faut s'entraîner en lutte, mais il est capital et fondamental pour le bien du sport en France et du MMA qu'on rétablisse les vérités, qu'on ne rigole pas avec ce genre de trucs. C'est bien de rigoler à gauche, à droite, mais nos athlètes à nous, On veut tout ce qu'ils ont gagné à l'étranger. S'ils essayent de faire les bons en disant « Moi, je vais faire la différence. Je vais aller lutter avec un mec qui est un lutteur. » On va se planter. On a besoin de capter que, contrairement à ce qu'on raconte en disant « Le MMA Factory est mauvais pour transformer, pour enseigner la lutte. » Non, je ne suis pas sûr que si on fait un match de grappling, une forme de grappling avec des gens qui ont des palmarès en MMA et on s'affronte sur une forme de grappling, mais qui les grappleurs ne sont que des combattants de MMA, je ne suis pas sûr qu'on soit les derniers en France. Je pense qu'on serait vraiment vers les premiers. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que dans notre salle, quand un jeune arrive comme William Gomis, il est déjà un striker d'élite. Je peux lui apprendre la lutte que je veux, mais il est déjà un striker. Quand ce gars arrive, il est déjà un striker. Et ça vous arrive dans toutes vos salles à vous. La plupart des jeunes qu'on a, comment il s'appelle, Kevin Pechy. Kevin Pechy, et putain, il a fait de la lutte. Hein. Ceux qui ne savent pas, Kevin Pechy a fait de la lutte de haut niveau. Il était à un moment donné à l'INSEP. Il a fait de la bonne lutte, mais il s'est fait amener au sol. Il s'est fait soumettre au sol sur le Bellator récemment. Ce n'est pas parce que on ne sait pas enseigner la lutte. Il faut se rendre à l'évidence. Les athlètes français ont du retard de manière naturelle vis-à-vis des sports qu'on a. Le premier sport qu'on a fait en France, et le sport de base ici en France, c'était la BF. C'est le premier sport qu'on faisait à la base, qui avait cette dextérité, qui devrait être le fondament même, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, tout ce que tu veux. Mais une fille comme Anissa Mexen qui a commencé avec la BF, regardez ce qu'elle a pu faire. Le kickboxing, le Muay Thai, ne lui retirez pas ça en lui disant tu vas devenir une championne de lutte et tu vas aller battre une vraie lutteuse à l'UFC. Ça ne va pas arriver. Il faut bien qu'elle apprenne la lutte en période de développement. Mais quand on arrive en période d'affûtage, qu'elle se concentre sur le fait de toucher, ne pas être touchée. Ce n'est pas parce que c'est un style que j'ai inventé ou que je veux défendre. C'est un style qui est la clé pour arriver rapidement à la ceinture. Ceux qui sont arrivés à la ceinture de l'UFC, qui n'avaient pas le background de lutteur, si tu ne mets pas ça en place, ça va mal finir. C'est très difficile de passer les mailles du filet. Et donc, voilà, je...
Justement, c'est Jimmy Vienno et Anissa Mexen qui passent en MMA aujourd'hui, qui ont sur le papier peut-être un petit peu de retard dans ce domaine-là, et à leur âge aussi. Pour toi, quand tu les vois faire ces changements-là, est-ce que tu les conseilles aussi un petit peu ou pas, sportivement?
Bah oui, j'ai des très bonnes relations avec wow. Benoît, l'entraîneur et le manager de Anissa. J'ai des bonnes relations avec et ils ont fait, je pense qu'ils se sont entraînés au MMA Factory pendant 6 mois, dont je connais bien. Jimmy Vienneau aussi s'est entraîné au MMA Factory. Je lui ai donné des conseils, des fois, mais je ne suis pas leur entraîneur. Donc, je donne des conseils sporadiques et je redis encore, je ne peux pas dire mieux que ça. Ce n'est pas une volonté de vouloir défendre quelque chose. Arrêtez de croire que quand je dis un truc, je suis en mode défensif pour me justifier. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit, des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. Je le dis sincèrement pour ceux qui écoutent sincèrement, ceux qui sont là au hasard et qui vont dire « Bon, je ne peux pas le supporter, je ne sais pas ce qu'il fait là, ne soyez même pas là. » Je dis encore, juste pour ceux qui écoutent sincèrement, vous êtes un striker, vous avez un très bon niveau en striking. Apprenez la lutte, vous avez raison, bouffez du sol, de l'anti-lutte, du sol anti-lutte, mettez en danger les gars, apprenez vraiment de la lutte, mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit de devenir des lutteurs pendant votre combat. Vous n'allez pas tenir. Un mec qui a lutté toute sa vie va toujours remonter la pente, va toujours vous renverser, va toujours gagner à un moment donné parce qu'il a une avance extrême. Il y a très peu de gars. Je vous le dis, je n'invente pas.
Ouais, vous, d'ailleurs, tu as appelez... des exemples en tête, ça, de gars qui auraient réussi à quitter striker et qui ont réussi à passer complètement de l'autre côté. Ou ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on pense à ça, on pense au Adesanya. Ah oui, Georges Saint-Pierre.
Georges Saint-Pierre, c'est que Georges Saint-Pierre, à la base, karaté, taekwondo,
Ouais.
et puis finalement, mais il n'a pas battu les gars avec de la lutte pure. Il a battu les gars avec le timing de tu crois que je vais boxer, bah je vais lutter. Tu crois que je vais lutter, bah non, je vais boxer. Ça, c'est complètement différent. Ça, c'est un niveau de IQ élevé. Ce que je vais dire, c'est que si Conan joue à faire le timing avec Khabib, il peut le tromper. Comme Khabib peut faire semblant de lutter et puis mettre un knockdown à Conan. C'est un jeu de timing. Mais si tu fais un toll to troll, comme disent les hommes, si tu vas au contact chest to chest et que tu es Conan et tu te dis j'ai appris deux belles luttes, j'ai bouffé la lutte pendant 6 mois, je vais te défendre la lutte. Bah, tu défends une fois la lutte, tu perds toutes tes plumes. Le deuxième amené au sol, tu la défends et tu n'as plus de jus et tu peux plus rien faire. Il y a un mec comme Khabib qui a lutté toute sa vie, qui est efficient, efficace, avec une économie d'énergie. Et toi, tu es juste efficace. Donc, tu es efficace, tu vas t'essouffler à un moment donné. Lui, il est efficient. C'est vraiment du bon sens. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Arrêtez de dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il n'a rien à dire. Mais il a perdu avec un lutteur. Ne croyez pas en ça, je vous dis. Regardez le passé. Regardez juste le passé de ce qu'on a fait. On a su faire, on fait que ça au MMA Factory. On fait que ça, gagner plein de combats où il y a des lutteurs en face qui veulent nous faire tomber parce qu'on a reçu comme héritage des gens qui viennent chez nous, des strikers. La plupart du temps, ce sont des strikers à qui on essaie de donner des bagues. Et malgré ça, ils passent au haut niveau. Donc, c'est important d'avoir une lecture globale de la chose, de prendre le temps d'observer. Je le dis encore sincèrement, peut-être que je me trompe, mais mes intentions quand je fais ces discours-là sont des intentions vraiment nationalistes, de dire, les gars, il y a une guerre de nations qui se passe. La guerre, c'est vraiment important de capter ça, que vous pouvez arriver avec un très bon sol, comme comment il s'appelle le gars qui fait des manarolles sur l'UFC.
Tony Ferguson? Ah non, wow, parce que non, il avait tenté Ryan Hall, autant pour moi. Autant pour
Merci.
moi.
Oh, tu m'as fait peur.
Oh non,
je
non,
te
parce que Tony, parce que j'avais le flashback
J'étais sur
de
le point
Tony
d'enlever mon
Ferguson
casque et de tourner l'autre côté.
contre
Ok.
Justin Gaethje.
Ryan Hall.
Vas-y,
Ryan, regarde, observez le niveau de sol de Ryan Hall. Si le sol suffisait à gagner le combat, Ryan Hall serait déjà à quel niveau à l'UFC? C'est un tueur, mais il a un bon sol, mais ça ne l'amène nulle part. Regardez Suárez, Benjamin Saïk. Il y a peu de mecs à la salle qui peuvent survivre avec Benjamin Saïk plus d'une minute au sol. À la salle. Parce qu'il a un niveau de sol, quand on le met à thème à la salle, il soumet n'importe qui. Mais regardez Suarez, ça ne suffit pas d'avoir un sol. Ryan Hall, il a un putain de sol. Même comment Damien Maia, observez son sol. Regardez le niveau de lutte de Curtis, c'est une folie. Mais regardez où est-ce qu'on en est. La réalité, c'est qu'au final, on arrive au fait de dire c'est un ensemble qui fait de nous un combattant. Et si vous n'adaptez pas le fait d'ajouter des déplacements et que vous voulez aller jouer dans le domaine de l'autre, vous allez multiplier vos chances de perdre le combat.
j'ai justement, Fernand, deux questions subsidiaires à ça. C'est que déjà, à l'UFC, aujourd'hui, on remarque que quand on regarde le panel de champions, les lutteurs sont ceux qui dominent plutôt. Et il y avait une question qui nous venait même d'un certain Big Rusty, en rapport avec ce qui s'est passé récemment avec le retour de Crone Gracie et surtout l'évolution du MMA au global. En gros, sa question c'était, JJB ou striking, quelle est la pire base pour le MMA? Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut venir de la lutte.
JJB.
Parce
C'est
que,
que
alors qu'au début, c'est ce qui permettait de
si.
dominer.
Voilà, s'il y a la lutte au-dessus. Non, non. Au début, le JJB permettait de dominer parce qu'on ne savait pas c'était quoi le JJB. Et donc, les gars entraient dans le piège sans savoir c'était quoi. Aujourd'hui, tu prends un mec comme Si, qui est le champion du PFL. Bah, il n'est pas folichon. Mais il sait garder la distance. Il s'est imposé la distance avec des déplacements, la gestion de la distance, les coups qu'il porte et tout. Et du coup, il monte, il passe les étapes. Le lutteur peut jouer dans les deux domaines. Il peut aller au sol et bloquer le combat. Il peut être debout et coller le gars et amener le combat au sol. Le striker peut éviter qu'on l'amène au sol, garder les déplacements, toucher, ne pas être touché. Le grappleur, effectivement, quand il t'amène au sol, tu es cuit. En tout cas, tu as peu de chances de survivre. Mais pour qu'il t'amène au sol, c'est chaud s'il n'a pas cette habitude et le timing qui va avec. Surtout si tu tombes sur un mec qui est intelligent, qui fait de bons déplacements et qui utilise toutes ces frappes qui sont des frappes montantes. Vous savez, j'ai vu je ne vais même pas citer le nom. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas, c'est de la pédagogie pure, ce que je fais là. Je vous promets, je suis au-dessus de ça. Je m'en fous complètement. Je vous promets. Je vous promets. Je suis au-dessus de ça. J'ai vu une des critiques qui disait, un gars qui disait, c'est incroyable. Quand on demande à Fernand Lopez, c'est quoi sa stratégie de combat pour aller battre John Jones, il parle d'un uppercut et des déplacements. Vous avez vu ça où? Et je me dis, c'est fou en fait. J'ai pitié de ces mecs. Je me dis, si ces mecs sont des professeurs dans une école et qu'ils assument et qu'ils disent que l'uppercut et qu'ils parlent de l'uppercut comme étant un truc à sous-estimer, je me dis, mais ça va pas avancer. Si ces mecs ont une école avec de la compétition, c'est mort, ils n'ont rien compris. C'est, tu prends un mec comme on parlait de Ron Gracie qui a affronté
Charles Jourdain.
Charles Jourdain. Regarde toute la stratégie de Charles Jourdain. Si on te dit de la déterminer, la stratégie de Charles Jourdain, c'était à chaque fois qu'il y avait un bras rectiligne qui partait, il y a un bras oblique qui remontait en uppercut. À chaque fois qu'on le touchait, il repoussait et il prenait des angles morts. À chaque fois qu'il frappait, il faisait un pas à gauche pour déverrouiller la cible. Quand on vous dit angle mort, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Sérieusement, le lutteur a besoin de faire observer, j'ai fixé l'adversaire, je lui fais une feinte, je verrouille la cible. Quand elle est verrouillée, je choupe dans les jambes. Si elle n'est pas verrouillée, je remets à plus tard. Ça veut dire que si vous frappez, et à chaque fois que vous frappez, vous avez un angle mort et vous vous déplacez légèrement à gauche ou à droite, vous déverrouillez la cible. Venez pas me casser la tête en me disant que j'ai perdu un combat récemment et donc je vous explique, calmez-vous, écoutez ce que je vous dis. C'est important, sérieusement. C'est important, non, sérieux, Guillaume. C'est pas pour rigoler, je le dis pour les gens qui Ron Gracie affrontent.
Oui, mais Fernand, mais moi je te dis, je pense vraiment que c'est le fameux adage You're only as good as your last fight. Et que Cyril, il tape Pavlovich KO premier round UFC Paris, tout le monde aura oublié.
Mais c'est pas ce que je veux là. Moi, là, je suis pas en train de te parler de si on va l'oublier, si on va l'aimer, si on ne va pas l'aimer. Si rien ne s'en tape, qu'on l'aime ou
Ah non,
pas, moi je m'en
mais
tape.
même toi, mais même toi de tes compétences, hein. Tu sais, comme quand t'avais fait la fameuse clé de talon. Quand tu fais la clé de talon et que ça marche contre Dante May, c'est faire dans le mastermind. Et enfin, vas-y, dis-moi.
Jusque-là, c'est pas un phénomène qui m'impressionne en fait. Qu'on soit sur la culture de maintenant. C'est maintenant ce que tu fais maintenant qui te fait briller. Moi, je parle pas de ça. Je dis simplement que si on le dit et qu'on te décrédibilise à un moment donné et que ça s'arrête là et qu'il n'y a pas de la mise en danger, de la transmission, de la pédagogie, c'est de ça que je te parle. Ce que je te dis, c'est que concrètement, si tu vas dans une salle et tu vois pas, si tu ne mets pas les principes d'action qui vont faire que les gars progressent et que tu individualises, que tu comment dire, tu prends une anecdote en fait et tu racontes une anecdote en disant, oui, non, il a perdu contre un lutteur, point barre. Tu as envie de dire, mais non, tu n'as rien compris. Le nombre de lutteurs qui perdent à l'UFC tous les mois, tu n'as même pas l'idée. Il n'y a pas plus de lutteur que Curtis Blade. Il arrive, il perd à chaque fois. Il n'arrive pas à passer. Enfin, donc, tu n'as pas compris. Ce que j'essaie juste de dire, c'est ce qu'il y a des principes simples qu'on doit capter et que pour nous, dans la France, dans le style de combat que la plupart de nos champions ont, regarde tout ce qui perce au haut niveau. Regarde, Saladin, c'est un très grand lutteur. C'est l'un des gars les plus complets en France. Il a une très belle lutte. Mais il est meilleur en boxe. Regarde Manon Fiorot, elle est meilleure en boxe, en pied-point. Regarde, donc ce que je vais te dire, c'est que tu crois qu'aujourd'hui, si Tchevchenko combat avec Manon Fiorot, qu'est-ce qui va se passer? Tchevchenko va tout miser sur quoi, à ton avis? Tu crois qu'elle va aller kicker avec Manon Fiorot? Non. elle va mettre la main dessus, elle va plus lâcher une seule seconde. Et donc, du coup, l'énergie que Manon Fiorot va perdre à se débarrasser de Tchevchenko va lui coûter à un moment donné. Alors que si elle se met dans son déplacement qu'elle a toujours et qu'elle utilise son sidekick et tout, elle va faire mal. Ce que j'essaie de dire, c'est que au-delà de tout ce qu'il y a comme propagande de gants, de gym et cette volonté de nuire à mon gym et dire que le gym n'est pas bon pour qu'il y ait le moins de clients possible et qu'il y ait le moins de compétences possibles et tout, au-delà de ça, c'est important qu'entre les experts du MMA, quand on parle vraiment de MMA, je ne parle pas de grappling, je ne parle pas de lutte.
Oui, niveau stratégie. MMA, ouais.
Qu'on ait quelque chose de global et qu'on comprenne que la région du monde dans laquelle on est, le pays où on a une certaine culture sur le striking, et ce striking-là va faire... Je suis débordé des strikers. Dans ma salle, il n'y a que ça, des mecs qui viennent de toutes les disciplines de striking, il n'y a que ça.
Mais aujourd'hui, tu préfères coacher justement là aujourd'hui, parce que tu commences à avoir des lutteurs aussi qui arrivent là, je pense notamment enfin, Younouzov, Azamat, Abdoul également, tu préfères désormais, maintenant que tu as connu les strikers, accompagner des grappleurs qui viennent vers le MMA ou des strikers qui viennent vers le MMA?
Non, je prends plaisir à accompagner tous les athlètes.
Mais maintenant que tu as connu les plus hauts sommets ou presque, avec que ce soit Cyril ou Francis ou même Taylor.
Honnêtement, je te promets, c'est kiff-kiff dans la manière de transmettre la connaissance. Ce qui est chiant, c'est juste le delta de fight IQ ou pas. Un coach te le dira. Ce qui est laborieux, c'est quand tu tombes sur un mec à qui tu expliques des choses et c'est très long à capter. Tu vois, le mec, il est lutteur. Et le mec, il s'appelle Ahmed Salamov. Mais c'est comme si tu avais une... Enfin, je ne sais pas quoi te citer comme nom de voiture sans faire trop de pub et tout, mais c'est comme si tu avais un bolide super sophistiqué et tu as juste à toucher un petit bouton et ça suit tout et ça bosse tout seul, en fait. Ahmed Salamov, lutteur, grappleur, mais il est de le coacher. Tellement agréable à coacher parce qu'il écoute, parce que c'est facile, il capte vite, il comprend. Et puis, tu as des strikers d'élite. C'est vraiment un plaisir de les accompagner. Et puis, quelquefois, j'ai croisé dans ma vie des strikers qui étaient des strikers où tu sens que le transfert d'habileté motrice est compliqué pour eux. Ils ont du mal à capter cette notion-là parce qu'en gros, tu lui apprends à boxer en reculant, tu lui apprends. On t'apprend quand tu fais de l'anglais que quand tu mets ton jab, tu vises ton jab, il y a ce pas que tu mets en avant pour avancer. Et là, tu lui apprends qu'il met son jab, il le détache de son corps et son corps recule pour créer de l'espace au cas où l'autre a shooté quand même. C'est très compliqué pour ces mecs-là, ils ne sont pas habitués à fuir. J'ai une petite anecdote de Danny, je lui fais un petit coucou à Danny. C'est un ami, c'est l'ami de, le fameux ami de Cyril qui l'a amené au Muay Thai à l'époque. Les gars travaillaient, ils faisaient le BTS ensemble et donc il amène au Muay Thai et tout, ils deviennent potes et donc ils ont fait une carrière de Muay Thai ensemble. Donc Danny arrive après que Cyril soit arrivé au MMA Factory et que Cyril ait combattu déjà deux fois au TKO, il arrive au TKO, il arrive au MMA Factory, il regagne une séance d'entraînement. Et il regagne une séance d'entraînement où... je mets quelqu'un face à Cyril et Cyril doit juste se déplacer. Il avance vers Cyril, Cyril change de direction, il le touche, change de direction, il fuit. Et il me dit, il vient à côté de moi, Danny, et il est hors de la cage. Il me dit, mais Loki, mais à quel moment il combat? Parce qu'il fuit tout le temps, là, c'est pas la boxe. Il fuit là. Et on éclate de rire. Nous tous, parce qu'il a parlé, les autres, on éclate de rire, tu vois. Et c'est vraiment une notion qui n'est pas celle-là. La notion qu'il a, l'ego, la construction de la vie, la culture même du guerrier des cités, on lui a appris qu'on ne fuit pas, on ne recule pas, on bloque, on frappe. Donc, quand tu tombes sur ce genre de mec, mais quand il s'est mis à faire le MMA, parce que du coup, pour la petite histoire, Danny est arrivé, il s'est vraiment inscrit, il a fait une année de MMA, au bout de quelques mois, peut-être 7 mois, il me dit, je viens de comprendre, hein, Loki, ça sert à rien de vouloir rester sur place, hein. Parce qu'ils me font voler tout le temps, je tombe de tous les côtés et tout. Je viens de comprendre le truc. En fait, le déplacement, tu te rappelles, c'est... Ben voilà. C'est vraiment ça. C'est pas un jeu. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire la lutte. Allez demander à Manga Benjamin, le professeur de lutte au MMA Factory. L'autre jour, j'arrive à la salle. il y a Papoulélé, il y a Lynn, une jeune fille, une combattante d'Allemagne qui va faire son premier combat sur Ares. Il y a Cyril, il y a qui d'autre ? Il y avait un nom, qui d'autre ? Ibrahim Mané, je crois. Il y a quelques gars qui sont sur le tapis, qui sont en train de faire de la lutte. Et c'est la fin de la séance au moment où j'arrive. Et ils étaient en train d'apprendre une technique spéciale, une manière d'amener au sol. Donc j'arrive, j'ai dit, bon, dis-moi, s'il te plaît, mon gars, qui est le meilleur athlète là, qui est le meilleur lutteur de tous tes gars que tu as là. Je lui dis, attention, fais pas le focus. Sois honnête, étudie. Et donc on est là et il va dire, bon, honnêtement, c'est numéro un, Cyril, numéro deux, Lynn. Et on éclate derrière, on se met à rigoler, tout ça et tout. Tout ça pour te dire que c'est ridicule ce que je vais dire là. Parce que celui qui est un casual, qui n'a jamais, qui ne sait pas de quoi on parle, si on le met là et qu'il m'entend dire que Cyril est le gars sur ce qui faisait la science ce jour-là, donc il n'y avait pas les gros lutteurs de la salle, il n'y avait pas, il y avait pas Vlad Goudjou, il n'y avait pas les gros lutteurs de la salle, il n'y avait pas Zelim Khan. Je te parle là des gars qui sont des strikers qui vont apprendre la lutte. Ce que je veux dire, c'est que, à force de lutter depuis des années, vous avez bien suivi des interviews quand même où il y avait Selim Trabeski qui vous disait que je l'utilisais pour faire lutter Francis et Cyril. Bon, au moins, ça témoigne au moins que, même si j'étais un bourreau pour lui, ça témoigne au moins que j'utilisais, qu'il luttait déjà à l'époque, Cyril. Cyril, c'est lutter, crois-moi. Ce n'est pas le premier venu qui va faire tomber Cyril, si je te le dis. Crois-moi. Pure lutte, on fait un match, pure lutte, il va surprendre. Mais non, ce n'est pas le moment d'aller lutter avec des gars. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas des personnes qui l'ont souvent fait tomber, Cyril. Il n'est pas tombé, ce n'est pas que les autres gars ne voulaient pas l'amener au sol. Ils avaient l'intention de l'amener, mais il était inexistant, intouchable. À partir du moment où tu t'exposes et que tu te retrouves au niveau où il était avec John Jones, où il engage le bras et les prix, bah là, tu vas devoir justifier les heures de lutte. Et là, en face, c'est pas pareil. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et donc, moi, je vais pas arrêter de donner ces messages aux gens en disant, observez dans l'histoire et vous verrez qu'il y a très peu de strikers qui sont réussis à transformer complètement et devenir des très bons lutteurs. Vous vous mettrez en danger, vous allez tuer votre style. Apprenez la lutte comme plan B, mais maintenez-vous et restez intouchable pour garder l'énergie et mettre KO vos adversaires.
Toucher sans être touché. Fernand, dernier point et pas des moindres. 11e titre de champion du monde pour monsieur Teddy Riner le week-end passé. Donc ça va entre 2007 et 2023. Ce monsieur-là, qu'est-ce que toi t'en penses de ses accomplissements ?
Un monument intouchable. Je ne sais même pas si c'est possible. On se voit champion du monde, je ne sais pas comment.
Et puis surtout, revenir comme ça, parce qu'il était hors du circuit, il revient, il tape les gars.
C'est ça. Mais surtout avec ce qu'il fait comme vie à côté. C'est un homme d'affaires accompli. Vous n'imaginez même pas ce qu'il fait à côté. Il a une maison de production. Il travaille avec un démol, il a c'est un vrai entrepreneur, un vrai homme d'affaires, il est un peu partout, il est ambassadeur de plusieurs causes, c'est juste impressionnant ce qu'il fait. Je suis juste admiratif. 11 fois champion du monde, chapeau.
Et pendant un temps, les gens fantasmaient sur un Teddy Riner MMA, là, le train est passé. Est-ce que toi, tu y as pensé ou pas ? Ou tu t'es toujours dit que c'était pas possible ?
Non. Ça se sait. Il y a des judokas qui ont le côté. C'est le côté un peu taquin, un peu voyou dans le bon sens du terme et tout. Comment il s'appelle Jamel Bourras il y avait ce genre d'athlète là et tout qui était un peu oui mais c'est pas lui, c'est pas non, c'est pas Teddy, je ne le vois pas comme un mec qui va venir prendre des pains et donner des pains. Je ne pense pas, je n'y ai jamais cru, j'ai jamais à un moment donné non. du tout. Ça aurait pu être un bon sparring partner, mais pas. Non, je vois pas ça. Non, je n'ai jamais visualisé lui comme. Tu vois bien tous les judokas. J'ai l'impression que les judokas qui performent le plus sont des judokas qui n'étaient pas très fins pour le très haut niveau. Je pense que quand tu vas au très très haut niveau en judo, rarement tu. On a rarement vu un mec qui était médaillé d'argent arriver à performer, médaillé d'or en judo et arriver à performer à très haut niveau en MMA. J'ai l'impression que c'est un sport de précision. Oui, c'est du taï-sabaki, c'est un peu de. J'utilise la force de l'autre pour. Il faut avoir un peu de folie, un peu de côté bagarreur, un peu de voyou, un peu de l'imperfection. Il faut avoir un judo pas trop parfait. Quand tu as un judo parfait, que tu l'as travaillé longtemps et que tu as fait du très haut niveau, j'ai l'impression qu'on aura du mal avec des transferts d'habileté motrice.
La boucle est bouclée, monsieur. Je pense
T'es
qu'on a.
sûr?
Oh, ouais? Ouais, il y avait quelque chose que tu voulais, dont tu voulais parler?
Oh non, 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 je te taquine, c'est tout. C'est toi
Ok,
le maître, moi.
non, parce que peut-être, hein, non? Ok.
Ah non, non,
Ok.
moi je suis bien, il n'y a aucun souci. Je suis bien.
Ok, bah formidable. En tout cas, voilà, c'était l'épisode de la semaine, le kinologique qui a une nouvelle fois été très riche. Fernand a fait un long point stratégique, en tout cas. Si, petite question. Là, il commence à y avoir les annonces qui pop-up ici et là concernant les Contender Series. Est-ce qu'il y a des pensionnaires du Factory qui vont en être cette année? Parce que j'ai l'impression que depuis Omar Gadziev et Nasrudin Nasrudinov, t'as plus de gars qui sont allés. C'était une question en commentaire, ouais.
Parce que Arès me pompe pas mal d'athlètes. En gros, les
Et parce que c'est
potentiels
pas
qu'on
très
a.
intéressant, enfin quand t'as Ares d'un côté et les Contender Series, pour un athlète, le choix est vite fait, c'est
Parce que
ça?
Arès aujourd'hui, c'est quasiment comme le contender série. En termes de relation qu'on a avec l'UFC. On est quasiment sûr que quand tu as la ceinture, tu as ta place sur l'AS. Donc,
À
du
l'UFC,
coup,
ouais, l'UFC.
à l'UFC. Donc, du coup, je pense que c'est ça. Et mine de rien, on se débrouille pas mal. On paye beaucoup mieux que le Contender Series. Contender Series, le gars prend 5 000 dollars. 5 000 dollars, c'est pas la même chose, tu vois. Quand tu prends 5 000 dollars et que tu donnes 30% aux États-Unis, que tu as fait 9 heures d'avion, enfin, que tu as fait 11 heures d'avion avec 9 heures de décalage et que tu prends 5 000 dollars et que tu donnes un tiers aux États-Unis, bon, quand tu reviens, tu tires un peu la gueule, quoi. Donc, les jeunes font les calculs et ils se disent, bon, si je suis tranquille, je suis à l'aise et que je vais suivre la ceinture et que je prends un peu ça sans avoir ces impôts à donner là et tout, et c'est différent, tu vois.
Got
Donc
it,
voilà,
got it.
je ne sais
Ouais.
pas, j'imagine que c'est ça, mais en tout cas, aujourd'hui, je fais du recrutement et j'essaie de placer. Là, il y a des noms qui sont soumis. J'essaie de placer des noms et tout, et puis on voit ce que ça donne. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont un peu un langage très sûr d'eux. Mais ce qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'en général, on demande à ces jeunes d'avoir la folie de rêver et de rêver qu'ils peuvent être des champions. Faut pas leur reprocher ça. Faut pas. C'est le plus difficile à avoir. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont talentueux et qui ne rêvent jamais et qui ne pensent pas qu'ils vont être des champions. Quand vous avez des petits jeunes, comme Jordan, qui est très timide, qui ne parle pas beaucoup pour sa défense, il est vraiment très humble, très simple. Quand il arrive à vous sortir un truc et qu'il le prend du fond de son cœur à sortir son petit rêve en disant, moi je pense que je peux y arriver. Il ne dit pas je suis du top 5, il dit je pense que je crois que je peux y arriver puisqu'il s'agit d'argent pour aller au PFL et je sais que si j'entre dans le top 10 de l'UFC, j'aurai de l'argent. Moi je pense que je peux y arriver. Quand vous avez un jeune qui a ses rêves, ne lui retirez pas son rêve. Donc moi, je propose aux jeunes, je les place sur les Contender Series, ceux qui sont sur le management, parce que le Contender Series, je reçois les annonces en primeur, quoi. Dès qu'il y a la saison qui commence, je reçois tout de suite un email de Sean et de Mick qui me demandent la liste de mes gars du Contender Series. Mais honnêtement, il y a peu de personnes éligibles qui veulent y aller. Il y a beaucoup qui veulent y aller, mais soit ils ont peu de palmarès, donc ça n'intéresse pas encore l'UFC, soit ils ont une carrière très grillée, c'est pas intéressant pour l'UFC. Mais ceux qui sont bons, bankable, que je propose, me disent non, merci.
Très bien, très bien, très bien. Bien, Fernand, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode comme chaque semaine. Ice Fighting Championship de retour le 23 juin prochain. On en parlera. Yes. On en parlera les prochaines semaines. Ajit Sushwan.
Est-ce que vous savez qui est Ajit Sushwan?
Oh yo. Attention. Alors, c'est parti, la hype machine est lancée.
Mais non, il n'y a pas de hype machine. Juste pour vous dire que je serai à votre place, je vais checker qui est Yazid Chouchouan. On a trouvé un vrai challenge à Damien. Et Damien, je pense qu'il va se mettre sérieusement en danger. Et c'est très intéressant de voir ce combat, cette ceinture, ce titre-là entre Yazid Chouchouan et Damien Lapillus.
Et d'ailleurs, justement, pourquoi t'as pas mis un dégât qui est classé aujourd'hui chez Arès?
Comme qui? Il faut donner des noms.
J'ai pas de nom en tête là.
Parce qu'ils avaient déjà des combats, parce qu'ils étaient déjà occupés, parce qu'ils étaient dessus d'autres choses, tu vois. C'est tout, mais ils vont revenir. Amin Ayoub va revenir. Mais on pense que l'un des rares gars avec un bon palmarès, avec un bon niveau, qui a quand même combattu des bonnes organisations à l'étranger, il y a eu Chouan, c'est l'un des rares qu'on n'avait pas encore sur le roster RS, et tous ceux qui sont free agency, on les veut, tous les gars qui sont bons en France, on les veut, et on avait besoin que monsieur Yazid Chouan vienne nous montrer ce dont il est capable. Et donc, le 23 juin prochain, Damien Lapillus, Yazid Chouan, et le retour de Daguir Imavov, le grand frère de Nassourdine Imavov, qui va affronter un vétéran de l'UFC, son retour en common event, et puis le fameux Monsieur Coleman, qui était l'adversaire prévu pour Morgan Charrière sur le Cage Warrior, qui va affronter Alioune Niaye le 23 juin au Dôme de Paris. Donc les places sont déjà disponibles. N'hésitez pas à les prendre tout de suite.
Et à la semaine prochaine.